Bonsoir, vous êtes sur Zoom Écologie, Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission consacrée aux questions écologiques, tous les jeudis de 20h30 à 21h30. Nous avons décidé de consacrer ce soir notre émission à la dernière parution d'EcoRêve, celle d'hiver 2011, le numéro 38, intitulée « Quelle valeur pour la biodiversité ?» avec pour invité Sarah Feuillette, la coordinatrice du numéro. Bonsoir, bonsoir Sarah.
Bonsoir.
Christophe Bonneuil, chargé de recherche au CNRS. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Et Xavier Poux, ingénieur agronome et docteur en économie rurale, qui travaille au bureau d'études ASCA, qui participe à la prise de décision en matière de politique publique. Bonsoir Xavier.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Eh ben ça va.
C'est très bien. Alors, pourquoi ça va ? Vous avez décidé de consacrer votre numéro aux questions, aux questions de la valeur de la biodiversité.
Alors, donc moi je travaille dans la gestion de l'eau, dans un établissement public qui s'occupe de gestion de l'eau, et il se trouve que dans le cadre de mon travail, je suis confrontée directement à ces questions. Donc pour dire quelques mots sur pourquoi, en fait, l'Europe fixe aux États membres l'objectif d'atteindre le bon état des rivières et des nappes, enfin de l'eau, dans des échéances fixées. Et on peut éventuellement demander des dérogations à ces objectifs en les justifiant, en montrant que les coûts sont disproportionnés. Donc ça veut dire qu'on va, sur un projet donné, par exemple de remise en état d'une rivière, on va comparer les coûts du projet aux bénéfices du projet, sachant que les bénéfices, c'est notamment la circulation des poissons, etc. Donc ça va poser la question du chiffrage de ces bénéfices. Alors dans mon quotidien, il se trouve que je suis de plus en plus confrontée à ces questions de chiffrage et ça me pose des questions sur la valeur de la nature, la conception anthropocentrée de cette démarche, toutes les questions philosophiques qui vont avec, et puis l'utilisation éventuellement de ces chiffrages par des firmes qui chercheraient éventuellement à marchandiser la nature. Donc à partir de là, on a décidé de faire ce numéro. Pour considérer cette question, on a fait appel à des philosophes. Donc par exemple, on a Virginie Maris, qui est philosophe sur la biodiversité, qui a rédigé un article. Également Patrick Vivray, qui clôt le numéro. On a fait appel à des économistes qui nous parlent des différentes méthodes de chiffrage et d'une conception plus en phase avec l'écologie politique de considérer la question. On a fait appel également à des gens qui utilisent ces chiffres. Donc il y a notamment quelqu'un qui travaille dans une ONG qui nous explique comment à Bruxelles il est confronté à la question, il doit faire du lobbying et éventuellement ces chiffrages vont l'aider à faire du lobbying. On a également interviewé une élue écologiste qui a également été confrontée à la question. On a interviewé Bernard Chevassiot-Louis, qui est le rapporteur d'un rapport important qui a été produit en France sur la biodiversité, qui a fait sur le chiffrage de la biodiversité, qui a fait référence. Peut-être qu'on reviendra sur les autres articles au fur et à mesure.
Oui, mais avant de demander à Xavier Poux qu'est-ce qu'on mesure dans la biodiversité et comment on le mesure, est-ce que Christophe, tu pourrais nous parler d'EcoRêve, qu'est-ce que c'est que ce journal, ça consiste en quoi?
Donc c'est le 38e numéro, donc ça fait à peu près 10 ans, je crois qu'elle a été créée en 2000, cette revue. C'est une revue qui était lancée par des militants et des universitaires des Verts, plutôt de la tendance radicale, de la gauche des Verts de cette époque-là, où on était en plein enlisement des Verts dans la gestion gouvernementale avec Dominique Voynet qui avalait pas mal de couleuvres au gouvernement Jospin, et d'autre part un projet d'écologie assez centriste qui était apporté par l'arrivée de Daniel Cohn-Bendit en France. Et donc on a lancé cette revue pour faire un petit peu contrepoids, dialogue intellectuel avec ces orientations-là de l'écologie qui ne nous convenaient pas trop, et pour aller chercher au contraire plutôt du dialogue du côté de l'altermondialisme, qui était donc le démontage du McDo de Millau, ça doit être 99, c'était juste à ce moment juste à ce moment-là. Seattle, c'est 2001. Donc l'idée, c'était de faire un lieu de réflexion qui était un peu sur la lancée de la pensée d'André Gortz. Qui partait de... On était pour la plupart ouverts, mais avec la certitude que c'était plus les partis politiques qui faisaient du politique, que le politique il venait de l'extérieur, de la société, des changements culturels, des changements de pratiques, des mouvements altermondialistes, etc., etc. Et que donc il fallait essayer de transformer l'écologie par l'apport de tous ces mouvements-là. Alors depuis... Il y a beaucoup de noms verts qui sont rentrés dans la revue, des décroissants, des gens qui venaient de l'écologie sociale ou de l'extrême gauche. Puis il y a beaucoup de gens qui étaient au vert, certains d'entre eux sont sortis. Et donc on ne peut plus dire que c'est une revue qui est liée à un parti particulier. C'est une revue critique d'écologie politique qui
indépendante.
Indépendante, qui est dans un espace intellectuel et politique, et quelque part entre les verts. L'écologie plus radicale des décroissants, l'extrême gauche et l'altermondialisme.
D'accord, ben merci Christophe pour le détail de cette l'histoire de cette revue. Et Xavier, est-ce que tu pourrais décrire un peu quels sont les enjeux justement autour de la valorisation de la biodiversité, qu'est-ce qu'on mesure et comment on mesure finalement
Ouais, alors avant cette question, il y a pourquoi on mesure. Alors il y a un exemple assez simple, je pense, il y a un constat qu'on fait tous, c'est que il y a des valeurs qui sont données à la nature. Quand on voit les abeilles, par exemple, c'est un exemple qu'on retrouve tout le temps, et c'est assez parlant. C'est vrai que les abeilles, elles vont butiner, et que quand on regarde tout ce qu'elles font comme travail, c'est un travail qui est très utile pour l'homme, pour la nature. Et on se dit, ça a une valeur. Hein, et c'est pas faux de le dire, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait, justifiable. Et le point de départ, c'est ça, c'est ce constat qu'il y a des choses dans la nature qui fonctionnent, il y a un fonctionnement, il y a des services qui sont rendus. Et puis un autre considérant qui est de se dire, on détruit les abeilles, on voit dans certains cas que... quand on les a tellement détruits qu'il faut aller faire la pollinisation à la main, je crois que ça se fait en Chine, ouais. dans des endroits pour polliniser les pommiers, là ça induit des coûts. Et donc on se dit, il y a un constat que tout le monde peut faire, que quand on va trop loin dans la destruction de la nature, eh bien ça a des conséquences économiques. Et l'enjeu c'est d'éclairer des décisions et de se dire, entre... des abeilles et des gens qui pollinisent à la main, qu'est-ce que je peux faire d'optimal? Donc ça, je crois que c'est le point de départ de la valeur.
D'ailleurs, à ce sujet-là, je peux enchaîner sur le fait que l'idée qui a prévalu dans ce numéro, c'est le fait que de nombreux économistes et des écologues également se disent qu'aujourd'hui, on est en train de vivre, certains experts disent une sixième extinction des espèces, et on voit une érosion croissante de la biodiversité, et donc ces économistes et ces écologues se disent si on arrive à chiffrer la biodiversité, à mettre une valeur dessus, elle aura plus de valeur aux yeux du politique qui raisonne de manière de plus en plus financière, et donc on réussira à la sauvegarder. Donc c'est cette question aussi qui est traitée dans ce numéro, c'est finalement, est-ce qu'il est possible de donner une valeur à la biodiversité, à la nature? Qu'est-ce que ça pose comme question éthique? Et ensuite, même une fois qu'on l'a fait, en espérant qu'on l'ait bien fait, est-ce que c'est vraiment utile? Et comment on s'en sert? Et est-ce que ça donne vraiment lieu à des décisions?
D'accord, merci Sarah. Christophe, tu as écrit un article avec Geneviève Azam sur la financiarisation de la biodiversité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as cherché à faire dans cet article?
Oui, ou peut-être pour reprendre ce que disait Sarah, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi... pour convaincre la société ou les politiques qu'il y a une crise écologique et qu'il faut faire quelque chose, pourquoi tout le monde est convaincu qu'il faut mesurer, quantifier, passer par des chiffres, alors que finalement les politiques N'utilise pas tant que ça les chiffres dans la vie politique, lorsqu'on parle de la nation, lorsqu'on parle de l'identité nationale, lorsqu'on parle de l'Europe, lorsqu'on parle de la dignité des travailleurs. À une époque, pour les mouvements ouvriers, c'était pas des valeurs chiffrables, c'était des valeurs qui étaient symboliques et qui étaient portées par le politique. Donc il n'y a pas nécessairement besoin de chiffres pour faire des politiques publiques. Et pourtant, depuis quelques années, il y a une espèce d'évidence qui s'est imposée que pour changer l'action publique, on aurait besoin de plus de chiffres, de plus de quantification de la crise, de plus. Et un moment important de ça, c'est vraiment quelque chose des années 2000, hein. C'était le Millennium Ecosystem Assessment en 2005. Un grand exercice d'experts au niveau mondial qui a mis en avant l'idée de services écosystémiques et l'idée qu'il fallait quantifier et mesurer la valeur monétaire de ces différents services écosystémiques. Alors il y a trois types de services, les services d'approvisionnement pour notre alimentation, les vêtements, etc. Des services de régulation, par exemple...
Les crues, les inondations.
La régulation des crues, une zone humide qui purifie l'eau, etc. Des services culturels, alors c'est un parc dans lequel on peut se rendre et être moins stressé quand on est des urbains. Et en amont de ces trois services, un quatrième qu'ils appellent les services de support. Mais en gros, il y a trois types de services. Un autre moment important de ce tournant... de l'économicisation, c'est le rapport Stern sur le climat en 2006. On a l'impression que les politiques n'allaient rien faire contre le changement climatique si on ne faisait pas des rapports. Et d'une certaine façon, l'échec de Copenhague, alors même que Stern avait chiffré que ça allait coûter très cher en pourcentage du PIB si on ne faisait rien, montre bien que ce n'est pas forcément toujours parce qu'on a plus de chiffres que les politiques sont capables de prendre les bonnes décisions, quoi. Et donc, du coup... Moi, ce qui m'intéresse dans ce tournant-là, c'est est-ce que ces nouvelles façons d'envisager la nature et la biodiversité, en la mesurant, en la quantifiant, en identifiant des services bien identifiés dans le fonctionnement des écosystèmes, on découpe les écosystèmes, qui sont des processus hyper complexes, en des petites fonctions qui délivrent des services, mais en fait tout est intriqué, mais on a besoin de faire ces découpages pour pouvoir attribuer un titre de propriété à cette fonction-là, de façon à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit propriétaire et qui puisse vendre quelque chose et qu'il y ait un marché qui se constitue. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les différentes façons par lesquelles la biodiversité est appropriée, marchandisée, et est-ce que dans ces dernières années, il n'y a pas une nouvelle étape qui est plutôt une forme de financiarisation de la biodiversité.
Oui, parce que tu as évoqué dans ton article, tu évoques aussi la CBD qui a essayé de marchandiser les ressources génétiques.
La Convention sur la diversité biologique.
Oui, merci. Voilà. Et justement, enfin, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui est en train de changer par rapport au marché de la biodiversité, enfin des ressources génétiques, par rapport à la création de marchés sur les services écosystémiques. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce que c'est dans les représentations, dans les politiques, dans les méthodes de calcul?
Ben, si on fait un retour par rapport à Rio en 92, on pourrait dire aujourd'hui, on arrive à Rio plus 20 en juin, un grand sommet de la Terre, que beaucoup des choses qui ont été mises en route à Rio 92 sont en stand-by ou sont un échec. C'est les négociations climatiques qui sont en train de s'enliser. Et puis, du côté de la biodiversité, le modèle de la Convention pour la diversité biologique, c'était de dire, ben voilà, on va découper la biodiversité en entités. Ces entités, on va les appeler des ressources biologiques. Et puis, pour préserver la biodiversité en tant que tout, il faut qu'on puisse mettre sur le marché ces ressources. Comme ça, il y aura des grandes entreprises qui vont aller chercher cette biodiversité pour faire des médicaments, des semences, etc. Ça va alimenter la croissance dans les pays du Nord. Et en échange, il y aura des compensations financières pour les communautés locales du Sud et les pays du Sud. Et par ce mécanisme, on va leur donner les moyens de continuer à entretenir les forêts ou la biodiversité. Donc tout était basé sur l'idée que pour bien conserver, il fallait pouvoir commercialiser les ressources. Manque de chance, finalement, les grandes entreprises se sont pas tellement intéressées à la bioprospection, il n'y en a pas tant que ça. Les grandes firmes pharmaceutiques, finalement, elles ont des banques tellement énormes que, à part quelques accords très médiatisés, finalement, les marchés de la biodiversité n'ont pas pris. Ça ne représente pas un marché important. Et d'une certaine façon, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que ce qui fait l'objet de... d'appropriation, c'est plus tant les ressources que les flux. Et ça renvoie à des changements dans l'écologie aussi, hein, avec l'écologie fonctionnelle, avec une vision beaucoup plus dynamique du vivant, qu'on ne peut plus découper hein, en morceaux, mais c'est des flux, des perturbations permanentes, etc. On s'est mis à se représenter le vivant, non pas comme quelque chose où on s'intéresse à sa productivité en conditions stables. Ça, c'était l'écologie des années 50-60, où on finance, c'était le regard de l'économie keynésienne et fordiste qu'on reprojetait sur le vivant. Et aujourd'hui, au contraire, on peut dire qu'on a un regard d'une économie, un regard beaucoup plus libéral sur la nature. On considère, dixit l'IUCN, la nature est la plus grande entreprise de la planète. Donc on projette des métaphores de notre économie financiarisée en réseau sur le fonctionnement de la nature et on dit finalement ce qui est intéressant dans la nature, c'est sa capacité de résilience. C'est un mot, il y a 50 ans, ça n'existait pas. On s'intéressait à la productivité, mais on ne s'intéressait pas à la résilience. Donc aujourd'hui, finalement, on a un nouveau regard sur ce que c'est que la biodiversité, qui tourne beaucoup plus autour des flux, des services et de la résilience et d'un caractère réseau, et que ces nouvelles représentations du vivant, qui sont liées aux avancées de l'écologie, sont aussi en phase, probablement, avec des évolutions du capitalisme, qui est beaucoup plus intéressé par la question de l'économie des fonctionnalités, par la mise en place d'une connexion plus directe entre les flux du vivant et les flux financiers. Mmh.
Et qui sont les acteurs qui sont promoteurs les acteurs internationaux qui sont promoteurs de cette approche économiciste de la nature et des services écosystémiques. Et tu parles aussi de produits, la possibilité de création de produits dérivés sur.
Oui, ben en fait, il y a plusieurs types d'outils qui sont en train de se mettre en place. Alors le constat général, en gros, hein, c'est que les Nations Unies n'ont plus d'argent. Les grandes puissances ne financent plus, les États-Unis n'ont jamais financé, puis maintenant avec la crise, tous les autres pays industrialisés ont du mal à mettre de l'argent au pot du multilatéralisme, donc le multilatéralisme est en crise, donc les Nations Unies, pour essayer de continuer à faire quelque chose, ont besoin de l'argent du privé. Et donc, elle développe un discours disant il faut, pour sauver la nature, il faut que tout le monde s'y mette, et il faut donc aussi que les entreprises participent à ça. Ça a commencé à Johannesburg, avec un forum des entreprises privées qui a joué un rôle très important en 2002 à Johannesburg, 10 ans après Rio. Et puis maintenant, on dit, alors pour que les entreprises privées participent au sauvetage de la nature, faut que ça leur apporte quelque chose. Et donc, on dit, sauver la biodiversité, ça doit devenir un nouveau business. Donc, la nouvelle orientation des politiques publiques, ça doit être de faire en sorte que sauver la nature devienne profitable.
Oui, alors, tu as raison, mais je trouve que tu présentes qu'une seule partie des choses et que tu globalises peut-être un peu vite. La première chose, c'est que c'est pas tout à fait la même chose d'évaluer les services de la nature ou de mieux comprendre ce qu'il y a comme... Je reprends l'exemple des abeilles. Moi, je trouve, à titre personnel, je trouve pas ça débile de se poser la question. Finalement, on avait des abeilles, on a des gens qui viennent polliniser au départ. Donc, monétariser, essayer d'évaluer quels sont les services, ça, c'est une chose. Mais dans ce que tu dis, et c'est vrai, mais il y a des glissements implicites qui se font tout de suite. C'est-à-dire que quand on monétarise et qu'on essaye de se poser la question, qu'est-ce que ça représenterait comme équivalent monétaire, alors très vite, on vient sur la question de, donc il faudra payer pour maintenir ces services. Hein. Donc il y a tout de suite un équivalent entre le fait d'évaluer une valeur monétaire et de le transcrire en termes de flux financiers. Mais ça, je pense que c'est un glissement qui se fait chez certains acteurs politiques, chez certains acteurs économiques, mais il y a des écologues qui ne vont pas se retrouver dans cette image. Et...
Lesquels, hein, par exemple, enfin, de quelle discipline?
Ben, je suis pas sûr que les gens du Millennium Ecosystem Assessment, que citait Christophe, leur volonté de départ, c'était de rentrer dans un projet de monétarisation et de privatisation de la biodiversité. C'était plutôt un travail d'alerte en disant « faites gaffe, en faisant de l'économie à court terme, etc., vous, ben, vous risquez de gâcher un capital qui est beaucoup plus, plus grand ». Donc voilà, je pense pas que c'était l'intention de départ des écologues du Millennium Ecosystem.
Mais c'est aussi une manière d'obtenir de la légitimité auprès des décideurs politiques.
On revient. Alors voilà, et ça c'est le deuxième point. On revient à ce que disait Sarah tout à l'heure. Dans ce que tu dis, tu mets l'accent sur les acteurs privés, mais alors je vais parler peut-être plutôt du côté agricole. Plus particulièrement, il y a aussi tout un autre courant qui se développe, qui est autour des biens publics et qui repose sur, on monétarise et on donne une valeur à la biodiversité pour mieux reconnaître le gap, l'écart qu'il y a entre l'économie privée et ce que doivent prendre en charge les acteurs publics. Donc c'est un projet qui est assez différent de ce que dit Christophe. Si je vais reprendre l'exemple de des politiques agricoles, il y a eu tout un courant qui s'est posé la question, l'agriculture détruit beaucoup de ses services écosystémiques, est-ce qu'il doit y avoir un budget cette destruction, elle vient du fait qu'il y a un fonctionnement privé avec des firmes, avec des acteurs privés qui détruit la nature. Donc, est-ce que la responsabilité des acteurs publics, et via l'instrument des politiques agricoles, par exemple, est-ce que c'est pas de compenser, de faire en sorte qu'il y ait une prise en charge publique de ces biens publics? Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on ça distingue un petit peu les motivations des différents acteurs. Mais ça ne règle pas beaucoup de questions pratiques et d'acteurs. Parce que, bon, je vais donner un exemple. Je vais repartir de mon exemple des abeilles et des gens qui... On dit les abeilles, je sais, j'ai pas les chiffres en tête, mais admettons, ça vaut... leur pollinisation vaut 2000 euros de l'hectare. Bon, là, c'est 2000 euros qui sont des abeilles. Vous payez des gens qui pollinisent pour 2000 euros l'hectare. Vous dites... C'est un coût, mais vous pouvez dire aussi c'est un bénéfice. Je crée du produit intérieur brut, puisqu'avant, j'avais des abeilles qui faisaient un équivalent de 1 million d'hectares, mais ce n'était pas comptabilisé dans votre produit intérieur brut. Maintenant, vous êtes obligé de payer des gens qui font ce boulot. Donc, vous avez créé, au sens de la comptabilité publique, vous avez créé du produit intérieur brut, si je suis clair. Ouais. Et ce raisonnement, il va rentrer dans plein de domaines. Si on reprend l'exemple de Sarah sur les politiques de l'eau, à la rigueur, vous avez intérêt à polluer de l'eau et à la dépolluer. Vous créez deux fois plus de flux économiques. Vous en créez en polluant parce que vous avez mis des engrais, des pesticides, etc. Et puis vous la dépolluez parce que vous avez fait des usines de traitement. Donc, cette question, vous pouvez très bien avoir évalué et monétarisé la valeur de votre service écosystémique. Non, parce que si je suis banquier ou je suis décideur politique, je ferai très clairement la différence entre ce que des écologues et des économistes me disent comme étant une valeur plutôt virtuelle, quand même, ou un équivalent monétaire de comment fonctionne la nature, et puis dans les faits, j'ai un intérêt à m'allier avec une boîte de phyto et puis un traiteur d'eau en aval. Donc voilà, en fait, par rapport à ce que disait Christophe, ça complète le tableau. Je pense qu'il y a des intérêts privés et des intérêts publics. C'est peut-être pas aussi machiavélique que... Enfin, en tout cas, ma perception, c'est peut-être pas aussi machiavélique.
Si je peux me permettre, moi, le problème que je constate dans mon travail, c'est que pour aider le décideur public justement à prendre les bonnes décisions, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est les économistes disent bah oui, si on arrive à bien chiffrer tous ces services de la biodiversité, de la nature, etc., on va aider les décideurs, éventuellement même avec des débats participatifs publics, on va aider le décideur à prendre les bonnes décisions. Mais le problème, c'est que c'est très difficile de chiffrer les bénéfices de la nature. Et en fait, bien souvent, ils sont très très légers par rapport au coût d'un projet. Et donc finalement, bien souvent, si vous utilisez l'analyse coût-bénéfice qui compare les coûts du projet aux bénéfices, les bénéfices ne vont pas gagner. Et donc, si on raisonne avec ce genre d'analyse, on fait rien.
On revient au découpage dont parlait Christophe tout à l'heure. C'est-à-dire que
voilà.
Des petites boîtes.
Mais surtout parce que le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a... Il y a des services, à la limite, qui peuvent se chiffrer relativement facilement. Par exemple, les économies de traitement de l'eau qu'on va pouvoir faire en faisant des pratiques agricoles plus adaptées. Bon, ça, à la limite, ça peut se chiffrer. Par contre, le bien-être qu'on va retirer d'une zone humide, enfin d'un beau paysage avec une jolie rivière et des poissons, ça, pour le chiffrer...
Mais ça se chiffre, non ?
Alors oui, ça se chiffre avec des enquêtes... Par exemple, on fait des évaluations contingentes, c'est-à-dire que ça consiste à faire des enquêtes auprès de la population. Et quelle population ? Où est-ce que tu t'arrêtes ? Est-ce que tu t'arrêtes au bourg d'à côté ou est-ce que tu vas sur tout le département pour demander aux gens combien seriez-vous prêts à payer pour que cette rivière fonctionne de manière optimale et qu'il y ait des poissons dedans et qu'il y ait des jolies rives, etc. Donc ça veut dire qu'on interroge les gens sur leur consentement à payer. Sachant qu'en fait, si on interrogeait les gens sur leur consentement à payer sur plein de compartiments différents de la nature, de la sauvegarde des baleines, des ours blancs, etc., ils vont tous répondre 30 euros par an. Et quand tu additionnes tout ça, tu vas t'apercevoir qu'ils sont prêts à payer tout leur salaire. C'est très critiquable. Et en plus, sans compter le fait que ces enquêtes, elles sont très chères à mener, sont très difficiles et très chères à mener. Donc la plupart du temps, on ne les fait pas. Donc on transfère des valeurs qui viennent d'autres cas d'études du sud de la France. On va transférer une valeur dans le nord de la France. Et donc ça, on peut vraiment se poser la question du sens de ces calculs, sans compter que ces valeurs, on va les attribuer à une population. Mais laquelle ? Où est-ce qu'on va s'arrêter ? Et donc ces calculs sont très sensibles à toutes ces questions-là. Et donc on se retrouve à la fin avec un calcul qui non seulement est très critiquable, mais en plus est tout léger. Et n'a aucun poids à côté du coût du projet.
Et avec un paradoxe supplémentaire, c'est que moins il en reste, plus ce qui reste coûtera cher. C'est-à-dire que le dernier hectare de zone humide dans ce schéma-là, il va être investi d'une telle valeur sociale que tout le monde va se battre pour le protéger. Effectivement, d'ailleurs, il y a des chances qu'il le soit protégé. Mais c'est une valeur qui est très... qui a un sens social, mais d'un point de vue écologique, qui est contre-productif, parce que la nature, plus il y en a, plus ça coûte cher, d'une certaine manière.
Mieux ça fonctionne.
Mieux ça fonctionne, et plus ça a de valeur. Pardon, enfin, que je dis que ça coûte cher, je me fasse bien comprendre. Plus il y en a, plus ça a de valeur. Effective, mais moins ça aura de valeur monétaire. Donc là, je trouve qu'il y a une contradiction qui est absolument fondamentale. L'économie, c'est quand c'est rare, ça vaut cher, la nature, c'est l'inverse.
Et peut-être pour aller dans ton sens de ne pas avoir une vision complotiste, c'est vrai qu'il y a des usages très différents des mêmes façons de calculer. Il y a eu une sociologue américaine qui a comparé les débats, la question des dédommagements après des marées noires, la Mococadis en France en 79, c'est jugé vers 91 ou 92 si je me souviens bien, versus l'Exxon Valdez en Alaska, ça doit être une catastrophe de la fin des années 80. Dans le cas français, ils ont touché presque rien, dédommagé simplement les opérations de nettoyage. Et dans le cas américain, l'État fédéral a fait une vaste opération, envoyé dépenser avec l'État de l'Alaska 67 millions d'euros pour essayer de chiffrer les dégâts,
sur consentement à payer.
Dont une évaluation contingente où ils ont demandé aux gens combien pour eux valait l'intégrité écologique de l'Alaska. Combien valait la loutre pour eux, et en multipliant ça par les 91 millions d'Américains, l'étude, endossée par les prix Nobel, il y avait Solow, des grands économistes prix Nobel, aboutissait à 2,8 milliards de dollars. Et finalement, à l'amiable, ils ont obtenu 1 milliard de dollars. Alors qu'en France, l'État a laissé les collectivités locales se démerder, et les collectivités locales n'ont pas eu l'expertise, la compétence, le rapport de force pour obtenir quoi que ce soit. Et donc là, on voit bien que c'est aussi, c'est pas uniquement des questions de qu'est-ce qu'on mesure, comment on le mesure, mais c'est quelle est la légitimité, la volonté politique de nos décideurs pour porter des choses dans des rapports de force avec le monde des pollueurs, en fait.
Tu parles aussi dans ton article de la possibilité de créer des produits dérivés sur la perte d'une espèce et que ça se multiplie un peu aux États-Unis.
C'est vraiment quelque chose qui commence tout juste. En gros, les nouveaux instruments qui sont en train de se mettre en place par des instruments de marché pour gérer la biodiversité, c'est des choses du type des enchères. C'est du type des permis échangeables comme des quotas individuels transférables, et donc c'est des banques de compensation. Je suis un aménageur, je détruis une zone humide à tel endroit, je vais payer pour restaurer une zone humide à tel autre endroit. Je détruis un crapaud en Floride, je vais payer pour la restauration de la mangrove au Gabon. Enfin, la question, c'est comment on fait les calculs de commensurabilité entre ces choses-là. Mais en tout cas, il existe déjà des marchés importants de ce type-là aux États-Unis, et c'est en train de s'internationaliser. Et puis, il y a aussi des choses du type des prêts hypothécaires. On va prêter à une communauté de pêcheurs sur une île d'Océanie, et le prêt va être gagé de façon hypothécaire sur leur environnement. Alors, on ne dit pas trop qu'est-ce qui se passe s'ils ne peuvent pas rembourser. Enfin, en gros, ça sera la banque qui s'appropriera. Non, ça, c'est les instruments qui émergent. Et au-dessus de ce niveau-là, il va y avoir une couche spéculative de produits dérivés, effectivement, et on va avoir comme on a eu dans certains types de produits dérivés sur les emprunts immobiliers, on va avoir des fonds spéculatifs qui vont parier sur la distribution d'une espèce, et on gagnera de l'argent si on a parié sur la disparition d'une espèce. Alors là, c'est vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place, mais il y a toute une série de nouvelles sociétés de capital risque sur la biodiversité, les services écosystémiques. Il y a Eco Asset Management Partners, Inflection Point Capital, Canopy Capital. Il y a toute une série de nouvelles sociétés de capital risque qui embauchent des écologues, qui achètent des terres ou qui achètent des services écologiques pour essayer de les revendre plus tard lorsque les cours auront augmenté. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un nouveau modèle de gestion de la biodiversité par le privé qui est un peu en rupture avec des modèles d'il y a 50 ans ou 100 ans où c'était des parcs qui étaient gérés par les États avec des policiers, militaires. On avait un système de gestion très étatique de la nature, et là on passe à un système beaucoup plus lié au marché. Mais c'est vraiment quelque chose qui émerge.
Oui, et puis ça veut pas dire que la manière dont on gérait avant les parcs était plus juste, parce que ça conduisait aussi à des évictions des communautés locales,
bien sûr,
etc. etc.
Je vais vraiment paraître comme
celui
qui défend quand même des choses.
Le contradicteur de service.
Non, mais c'est très bien.
Je me souviens d'un colloque sur ces questions de manque de compensation écologique. Alors évidemment, le débat tel que tu le dis, la destruction du crapaud en Floride que tu peux compenser par une mangrove en Gabon, je crois que c'est ce que tu as dit, y a quand même des gens qui se mobilisent contre ça parce que ça serait trop facile. Et je ne crois pas qu'en France, où on commence à initier ce genre de choses, il y a quand même des réflexions pour que les compensations soient le plus locales possible. C'est-à-dire que concrètement, si tu détruis une zone humide en zone méditerranéenne, ta zone humide, tu devras quand même la retrouver en zone méditerranéenne. Donc il y a des gens qui réfléchissent à ça. Et alors, je reviens à ce colloque.
Peut-être juste, c'est une question de volonté politique, voilà, de rapport de force. Au moment où ça s'est mis en place aux États-Unis, c'était dans la période reaganienne. Il y avait des États comme la Louisiane qui avaient énormément de zones humides et qui il y a eu toute une négociation sur à quel endroit on compense, et finalement on s'est mis d'accord sur des compensations assez lointaines, ce qui a permis à la Louisiane de pouvoir industrialiser et aménager ces zones humides, ce qui a posé un certain nombre de problèmes au moment de Katrina où on a eu des...
Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'à ce colloque, il y avait quelqu'un de l'agence européenne, l'agence environnementale américaine, USDA, et qui disait, bon, les banques de compensation écologique, c'est quelque chose de vraiment formidable. Alors, je vais vous donner vraiment les messages pour que ça marche bien. 1. Appliquer le principe pollueur-payeur. 2. Appliquer le principe pollueur-payeur. 3. Appliquer le principe pollueur-payeur. 4. Faites des bandes de compensation écologique. Donc, derrière ça, il y avait bien cette question exactement de la volonté politique et de l'équilibre que tu donnes aux différents instruments. Et je pense que derrière cet exemple des banques de compensation, finalement, il y a derrière toute cette question, d'une part, d'évaluer la valeur monétaire de la biodiversité et ce transfert très implicite vers la décision publique, il y a une espèce de rêve. Il y a un rêve de ne plus faire de politique, je pense. Il y a un rêve de rationaliser la décision et de dire, bah voyez, il n'y a même plus à décider. D'un côté, vous avez 150 euros, de l'autre côté, vous avez 151 euros. Qu'on a bien évalué grâce à une évaluation contingente, en demandant en 1973 à notre monsieur dans le sud de la France ce qu'il pensait de la valeur de la zone humide dans le nord de la France 30 ans plus tard. Enfin, évidemment, je suis ironique. Mais on va arriver à une espèce d'objectivation de la décision. Mmh. Et puis voilà, il n'y aurait plus à décider puisque les chiffres décident par eux-mêmes. Mmh. Alors qu'en fait, on se rend compte que si on veut aller au bout de la logique même économique qu'il y a derrière, eh bien, ça nécessite de fait un dispositif politique qui est extrêmement ambitieux, qui est très très rigoureux, très très lourd. Et ça casse complètement l'image un petit peu naïve de la décision qui s'imposerait d'évaluation économique, puisque l'évaluation économique serait en elle-même un acte politique extrêmement fort. Alors après, on peut discuter, c'est ce modèle-là ou c'est pas ce modèle-là, enfin, à titre personnel, d'ailleurs, c'est pas ce modèle-là, mais au moins, on peut le prendre au sérieux.
Ouais, moi, ce que tu dis, Xavier, ça me fait penser à quelque chose, c'est que quand on fait toutes ces évaluations, il y a un moment donné aussi où il faut qu'on réfléchisse au terme, enfin au temps. Comment le temps est pris en compte là-dedans, et on s'aperçoit en fait que dans cette réflexion, il y a déjà un parti pris politique, un parti pris sur les valeurs, qui est que en fait, on va dans les calculs utiliser des taux d'actualisation. Qui seront les mêmes que pour les calculs économiques classiques. Et donc finalement, on va donner à la nature, enfin, on va avoir une vision court-termiste, en fait, des projets, puisqu'on va comment dire, donner à la nature une valeur qui décroît dans le temps en fonction de l'utilité. C'est-à-dire qu'en fait, les taux d'actualisation, ils disent qu'aujourd'hui, on a besoin de quelque chose, mais dans 10 ans, on n'en aura pas besoin. Et finalement, on applique ces calculs dans les raisonnements économiques, alors que c'est le contraire. Finalement, on s'aperçoit que la pression sur l'environnement, elle ne fait que croître. Comme le disait Xavier tout à l'heure, il va y avoir de moins en moins de zones humides, etc. Donc, rationnellement, leur valeur devrait, enfin, du point de vue économique, leur valeur devrait augmenter. Alors que là, avec les taux d'actualisation qu'on utilise, la valeur décroît dans le temps. Or, c'est ces calculs qu'on utilise pour soi-disant aider le décideur politique à faire un choix. Donc il faut se poser la question de est-ce qu'on accorde plus de valeur à ce qu'il y a aujourd'hui ou à ce qu'on va livrer aux générations futures. Enfin, voilà, ça pose vraiment cette question, je trouve.
Mais ça, c'est des choix éthiques.
Mais qui ne sont pas du tout résolus.
Tout à fait, oui. Qui ne sont pas explicités.
Le rapport de Pavan Sukhdev au niveau européen, il se pose la question d'ailleurs de passer d'un taux d'actualisation qui est normalement autour de 4% à un taux zéro, voire négatif, quand on fait des calculs sur la nature. Parce que la nature, justement, va prendre de plus en plus de valeur avec sa destruction.
Alors justement, quel modèle on pourrait opposer et proposer par rapport à cette logique de monétarisation et d'économicisation, de financiarisation ? Tu évoquais...
Peut-être sur des questions...
Sur les communs, par exemple, ou...
Sur les questions que tu peux rencontrer, toi, en agriculture ?
C'est le débat, moi, ouais. Je dirais, non, qui peut... Une alternative, c'est aussi le débat participatif... Pour discuter ensemble des valeurs, mais des valeurs au-delà des valeurs économiques, quoi, des valeurs du sens qu'on donne à la nature et de l'importance qu'on lui attribue. Et donc de débattre de cela collectivement plutôt que de croire qu'en donnant des chiffres à un décideur politique, il va pouvoir prendre la bonne décision.
Oui, c'est le fait de revenir aux valeurs et non pas à la valeur. Enfin, je trouve que finalement, une société, qu'est-ce que c'est ? C'est un compromis. C'est un compromis autour de valeurs qui régulent des relations et puis des actes très concrets. Enfin, on ne peut pas détruire une forêt. L'exemple des semences paysannes est un bon exemple. On ne peut pas reproduire ces semences, etc. Donc il y a tout un tas de normes qui s'imposent de fait dans des comportements. Et l'alternative, pour moi, c'est de reconnaître les valeurs qu'il y a derrière, de les faire vivre. Alors, Sarah parle, tu as raison, tu as le débat, mais tu as d'autres enceintes qui le font. Les politiques ont des responsabilités qui doivent réinvestir. Quand Christophe positionnait la revue tout à l'heure sur le registre des acteurs qui se placent, moi je comprends Ecoref comme étant faire exister des voix qui doivent être prises. Je pense que l'utilité d'Ecoref, c'est de faire écho quand même à des décideurs dans le futur. Alors les décideurs, c'est pas seulement le président de la République ou les ministères, mais c'est bien toutes les institutions qui régissent la société. Donc la solution, en tout cas, enfin, je sais pas s'il y a une solution, j'ai pas la réponse géniale, mais en tout cas, à mon avis, c'est de sortir de ce paradigme de l'utilité économiste que critiquait Christophe, que je le rejoins là-dessus, et de revenir à des valeurs plus fondamentales, et puis déporter sur un sens social, sur un sens humain, dire la nature, c'est beau, la nature, on peut pas... Enfin, moi, c'est des choses que je défends. Et ce qui me frappe, c'est qu'en fait, dans tout ce débat, on prend un peu les gens pour des cons. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas capables de comprendre eux-mêmes qu'un paysage, c'est beau, que la nature, c'est important, que les zones humides, c'est utile, que les abeilles, c'est utile, etc. Et on a l'impression que pour que eux comprennent et que les politiques comprennent, on est obligé de faire un échafaudage de monétarisation qui n'a pas de sens, parce que sur le terrain, les gens comprennent...
Comment ? On comprend quand même pas grand-chose.
Voilà, on ferait mieux d'expliquer comment ça fonctionne.
On ferait mieux de montrer une zone humide, faire des visites avec des bottes, il y a des opérations où les gens remontent les rivières, je crois... Tu as des opérations en Bretagne, je crois, où tu prends tous les élus et les habitants d'une rivière et puis tu leur fais remonter la rivière sur des bateaux et ils voient ce que c'est que la rivière, etc. Ben ça leur donne 10 fois plus d'arguments de gérer leur rivière plutôt que de leur dire 1 km de rivière, ça vaut 173,92 €. Enfin, c'est évident. Il faut arrêter de prendre des gens pour des idiots, quoi.
Puis un autre aspect, c'est que le fait de centrer les débats sur combien vaut les services de la nature fait qu'on ne regarde plus les sources de la pollution et qu'on n'interroge plus nos modes de consommation, nos modes de production. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est vu au moment de la mise en place des RED, hein, les mécanismes de réduction des émissions. L'idée, c'est de donner des financements à des propriétaires de forêts qui ne la déforestent pas. Et donc ça a fait l'objet de plus de 10 ans de négociations dans la Convention climat. Ça a finalement abouti sur des mécanismes qui sont en train de se mettre en place maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que, indépendamment de ce qu'on peut penser des RED, de leur intérêt ou pas, l'effet que ça a eu... c'est que dans les 10 dernières années, ça a focalisé le débat sur combien peut stocker tel type de forêt, combien doivent toucher les habitants de cette forêt, qui va les toucher, etc. Et que tout à coup, on ne parle plus de la production, la consommation de pétrole, la transition énergétique des sociétés du Nord, etc. Et c'est pas tout à fait par hasard que des pays de Scandinavie, qui sont des grands producteurs pétroliers, ont été les principaux financeurs des études de faisabilité et d'évaluation des mécanismes RED dans les pays du Sud. Parce qu'ils avaient bien conscience que de faire ça, ça permettait de déplacer le débat sur des choses qui les arrangeaient. Et donc effectivement, c'est intéressant pour ça aussi, quoi.
Et là, il y a vraiment des responsabilités collectives. Parce que ce que tu dis, c'est la notion, alors, je ne sais plus d'où ça vient, mais d'éclateur idéologique. J'adore ce terme. C'est-à-dire que tu as un débat politique qui est en train de se mettre en place. Bon, je vais reprendre mon domaine. Agriculture, environnement. Tu vas te poser la question de, voilà, l'agriculture bousille l'environnement, enfin, une certaine forme d'agriculture bousille l'environnement depuis des décennies. Donc, tu vas te poser la question des rapports de force politique, des dispositifs réglementaires que tu dois te mettre en œuvre. Et puis, arrive dans le débat la question de les biens publics. Alors, tu vas plus du tout discuter des enjeux concrets. Tu vas discuter, est-ce que l'environnement est un bien public ou pas? Et là, tu vas commencer à t'empoigner, à te pignoler, savoir est-ce que c'est un bien public? Oui, c'est quoi un bien public? Est-ce que l'environnement a tous les attributs du bien public? Est-ce que... Bon. Et en fait, c'est exactement ce que dit Christophe. Il y a un déplacement du débat. Au lieu de parler des enjeux concrets d'action, de mise en œuvre, de dispositifs, etc., on remonte d'un cran théorique le débat, et ce qui fait qu'on a perdu 10 ans entre-temps, et à la fin du matin, on ressort avec la tête complètement comme une pastèque, on ne sait plus de quoi on parle. Alors, il y a une responsabilité, à mon avis, qui est multiple là-dessus, parce qu'il y a des intérêts qui se saisissent de ça, mais il y a aussi, je pense, des chercheurs, en clair, qui adorent foutre ça dans le débat, qui se font mousser avec ça, et puis c'est absolument épouvantable, quoi. Ils n'ont aucun recul sur ce qu'ils font.
Sans compter qu'il va y avoir, une possibilité de détournement de la question, parce que tu vas avoir des activités économiques, par exemple une certaine forme d'agriculture que tu évoquais tout à l'heure, Xavier, qui va se saisir de la notion de bien public, qui va se saisir de la notion de monétarisation des services, et qui va dire, nous, on est un bien public parce qu'on produit de l'alimentation, donc nous, déjà, il faudrait faire attention à nous, et puis, d'ailleurs, dès qu'on pollue un petit peu moins, c'est un service rendu à la société, à la nature, hein. Donc, allez, je mets 30% en moins de pesticides, c'est un service écologique, ça, et donc tu vas te retrouver avec un truc qui est complètement retourné, qui est complètement à l'envers, où les pouvoirs publics vont financer un agriculteur parce qu'il met moins de pesticides sous prétexte.
Je suis quand même moins fort, donc je te fais du bien.
Voilà.
Ben, oui, j'ai une question par rapport à ça, Xavier. Toi, tu travailles pas mal sur les politiques agricoles. On aurait pu se dire, grâce à cette quantification et cette évaluation des services écosystémiques, on aurait pu faire évoluer les subventions agricoles en les conditionnant à des critères environnementaux. Et la nouvelle PAC qui est en train de se négocier pourrait finalement tirer parti de cette réflexion écologico-économique pour aligner les financements publics sur des critères environnementaux. Or, apparemment, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Tu peux nous dire ce qui se passe, en fait. Pourquoi ça marche pas?
C'est un beau cas de d'école hein, d'une certaine manière. Alors la notion de bien public a été super à la mode, vraiment. C'était très fashion il y a 3 ans encore. On ne parlait que de ça. Alors pour les raisons que tu évoquais, d'ailleurs, ça a été que tu évoquais, à savoir de pouvoir justifier de réformer la PAC. Bon, il faut, pour ceux qui connaissent pas forcément ce sujet fort intéressant, la politique agricole commune se réforme régulièrement. Ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'elle cherche toujours à c'est un processus de réforme permanent. C'est pas la révolution, c'est plutôt comment continuer en faisant croire qu'on change. Mais toujours est-il que dans ce processus de réforme et d'idées, effectivement, la notion de bien public, de paiement pour services environnementaux a été largement mobilisée. Et par des gens de bonne, on va dire plutôt de bonne compagnie, et de bonne volonté. Sarah, dans le numéro d'Ecorev, a pu interroger le responsable de BirdLife International, Ariel Brunner, Pour le côtoyer, je crois que c'est quelqu'un qui est vraiment sincère dans ses projets de réforme environnementale, de politique agricole commune. Et donc, les associations de protection de la nature ont été les premières à argumenter sur ce registre, en se disant, et pas de manière stupide, je pense, à l'époque, en disant, voilà, il y a une source de légitimité, il y en a marre de cette PAC productiviste qui bousille l'environnement, et si on pose, comme je le disais d'ailleurs tout à l'heure, la question en termes de biens publics, on voit bien qu'il y a un objet de politique publique, et de dire, il n'y a pas de raison de dépenser de l'argent public pour une production privée. Hein, l'argument, le slogan, c'était l'argent public pour les biens publics. Bon. Et puis, il y a eu ce glissement que Sarah a pointé en disant bah « ouais, bah, alors vous avez raison, l'environnement, c'est un bien public, on est les premiers à le reconnaître, mais la sécurité alimentaire aussi, c'est un bien public. » Alors maintenant, il y avait plein de biens publics, et puis au total, bon, donc, il n'y avait plus rien. Et il y avait aussi ce que tu disais, il n'y avait plus de responsabilité. Tout se vaut dans ce débat qui devient extrêmement théorique sur « on économise, on fait de l'économisation ». On évalue, mais on peut évaluer tout et n'importe quoi. On peut évaluer l'amour. Si vous voulez, off micro, je vous évaluerai l'amour. Donc on peut faire absolument tout et n'importe quoi. Et résultat des courses, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui sont du bon côté du manche et qui ont les moyens de se payer des économistes et des argumentaires, ils ont dit, en effet, comme le disait Sarah, mais quand vous achetez un quintal de blé, vous faites beaucoup plus qu'acheter un quintal de blé, vous achetez de la paix sociale, vous achetez du développement dans le monde, alors que c'est évidemment un non-sens, parce que subventionner le blé, ça fout en l'air toutes les agricultures paysannes, mais ça, c'est pas le problème pour ces gens-là. Donc on est arrivé à une volonté générale de rejustifier la PAC sur ces questions d'environnement par les biens publics. Et puis, au bout du compte, là, on est dans ces semaines-là, ou dans ces mois-là, c'est là que se dessinent les contours de cette réforme de la politique agricole commune. Eh bien, on arrive à quelque chose de super conservateur, où on a quelque part dans les justifications des politiques, en effet, le mot « bien public », mais c'est exactement ce que tu disais au départ, en disant il y a plein de politiques publiques qui ne se justifient pas par des aspects de quantification, on est revenu là-dedans. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est tout ça pour ça, quoi. On a eu tout un effort d'échafaudage théorique, politique, qui finalement s'est complètement dégonflé, quand on est revenu aux rapports de force réels, qui sont ceux des producteurs agricoles, du modèle industriel, pour le dire vite, face aux gentils écolos. Puis après, bon, bah, voilà, tout est dit, quoi. Tout est dit une fois qu'on a regardé ça.
Bon, bah alors, est-ce qu'on a tout dit sur les valeurs de la nature, de la biodiversité? Il nous reste encore quelques minutes pour peut-être parler d'éco-rêve. Ça coûte combien le numéro? Ça s'achète où? Comment on fait pour se le procurer? D'accord. Alors, on peut
combien ça coûte?
L'abonnement est à 23 euros.
23 euros, bah ouais, l'évaluation d'éco-rêve.
C'est
alors
pas cher. Ça vaut le coup en tous les cas.
Est-ce que si on en achète un, ça composte avec un habitat qu'on a détruit ou non?
C'est d'accord. En achetant un numéro d'éco-rêve, je crois qu'on sauve 3 ours blancs, 2 souris blanches
et 4 loutres.
Par contre, il y a un site internet très bien fait où on peut trouver les anciens numéros aussi.
Voilà, donc on espère que le numéro 38 sera bientôt accessible sur ce site internet, mais c'est probablement pas le cas encore, donc procurez-vous le numéro papier pour le lire.
Et, bon, et sinon, pour le lire, on ne sait pas où est-ce qu'on le récupère, d'accord.
On s'abonne, on va sur le site et on s'abonne.
C'est parfait. Bon, bah, merci beaucoup Sarah, merci beaucoup Christophe, merci beaucoup Xavier pour cette description de ce numéro qui, ma foi, fut fort intéressante. Et
bonne soirée à tous.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Au revoir.